Le bruit de la ruche.
Le bruit de la ruche.
Le bruit de la ruche.
Bonjour et bienvenue dans Le bruit de la ruche, le podcast qui raconte les abeilles. Buenos días, Martín.
Buenos días, Marc.
Comment estás?
Muy bien, muchas gracias.
Alors, bonjour Martin, je me permets de te saluer en espagnol car tu es argentin, Martin Giurfa.
C'est ça.
C'est comme ça qu'on prononce ton nom.
Exactement.
Tu es neurobiologiste.
C'est ça.
Tu es un spécialiste des abeilles qui parle beaucoup de langues. Tu as un parcours étonnant. Tu es argentin d'origine. Là, je te présente très globalement. Bien sûr, avec toi, dans ce nouvel épisode du bruit de la ruche, on va parler des abeilles et de leur intelligence, qu'on n'avait encore pas fait. Et donc, ça manquait. Et donc, je suis vraiment ravi d'avoir la chance de te rencontrer. Les mots sont pas trop forts. D'autant plus que dans mes podcasts de Baleine sous gravillon, j'ai déjà fait des émissions sur les abeilles. Même sur France Culture, j'en ai fait récemment sur les différentes espèces d'abeilles sauvages. On vient d'en parler en préparant l'émission. Et dans mes podcasts de Baleine sous gravillon, j'ai interviewé une de tes élèves, une de tes étudiantes, qui s'appelle Aurore Avargues Weber.
C'est ça.
Qui est venue nous expliquer que les abeilles, bien sûr qu'elles sont intelligentes, elles savent compter jusqu'à 5. Mmh. Elle avait raconté ça dans l'émission. Il y a un peu, pardonne-moi de ce que je vais dire, une sorte de tortillage de cul chez les scientifiques qui se refusent à parler d'intelligence des abeilles. On préfère parler de cognition. J'aimerais t'entendre là-dessus. Pourquoi ce double langage?
Le problème est du fait que les scientifiques veulent quelque chose de plus rigoureux pour aborder un problème. Et à l'heure actuelle, quand on parle d'intelligence, il y a tellement de définitions, tellement de niveaux qui ne s'accordent pas nécessairement, que peut-être le fait d'utiliser le mot cognition qui nous ramène à connaître le monde est quelque chose de plus général qui nous permet quelque part d'être en harmonie par rapport à des polémiques sur si ce terme-ci oui ou ce terme non. Voilà, donc c'est tout simplement ça.
C'est un peu notre mission du jour. L'abeille, elle peut apprendre. L'abeille, elle peut compter. Et l'abeille, elle peut même débattre. Elle peut faire tout ça, l'abeille, alors que son cerveau fait moins d'un millimètre cube et que dedans, il y a à peu près 900 000 neurones. C'est 100 000 fois moins que le nombre de neurones dans le cerveau d'un humain. Je suis désolé de prendre l'humain comme référence, on va essayer d'en prendre d'autres dans l'émission, parce que c'est vrai, on n'est pas le summum de je sais pas quoi, il y a d'autres êtres vivants sur Terre. Mais c'est juste pour dire que comment une abeille peut faire tout ça avec 100 000 fois moins de neurones?
En fait, la question qui se poserait, peut-être on pourrait la tourner à l'envers, c'est que déjà avec 900 000 neurones, tu peux déjà faire plein de choses, ce qui veut dire qu'on a des circuits élémentaires qui sont nécessaires et suffisants pour faire tout ceci. Et ce qui a été incorporé chez le cerveau humain, c'est des circuits supplémentaires qui prennent le relais quand peut-être l'un ne fonctionne plus. Donc, ça veut dire que déjà des petits cerveaux sont super performants et c'est un apprentissage déjà incorporé, déjà pour le respect de ce qui nous entoure. Donc, mais pour revenir à ta question, parce que sinon on dévie, tu me disais par rapport à l'histoire de compter. Effectivement, c'est quelque chose, comme je te disais tout à l'heure, quand tu te mets chez l'animal, quand tu commences à voir le monde à travers ce que l'animal fait, tu te dis, c'est quelque part logique. Cet animal doit naviguer, doit faire des longues distances et doit revenir toujours au point de départ, ce qui n'est pas le cas de tous les animaux. Pas tous les animaux ont une maison à laquelle il faut revenir. Les insectes sociaux, c'est le cas, parce qu'effectivement, il y a la ruche, il y a la colonie, etc. Donc, dans ce contexte-là, tu te dis, effectivement, donc pour faire des chemins, des routes préétablies, il faut savoir passer 1, 2, 3, 4 objets ou des marques de terrain particulières.
S'orienter,
ce qui aide effectivement à la navigation. Mais après, il fallait effectivement démontrer que ces animaux étaient capables de compter, ce qui a été fait effectivement en utilisant des expériences où on essaye à l'animal d'entraîner un nombre particulier indépendamment des objets qui représentent ce nombre. Comme quoi, je veux te dire, par exemple, 3, c'est 3 oranges, mais aussi 3 tasses de thé ou 3 téléphones portables. Tu sais que ce qui compte, c'est l'essence du 3. C'est pas, peu importe les objets qui sous-tendent, on va dire comme ça, le nombre 3. Et est-ce que tu es capable de voir qu'effectivement, peu importe que ça soit 3 oranges, 3 livres ou 3 tasses, tu comprends finalement que ce qui compte, c'est le nombre 3 qui te donne la solution au problème. Ce type d'exercice a été posé aux abeilles et elles ont été capables de résoudre ce problème-là. Et comme ça, on a pu voir qu'elles pouvaient extraire la notion de 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5.
Et ce qui est fou, c'est que d'autres animaux qui ont un cerveau beaucoup plus gros, avec beaucoup plus de neurones dedans, ils ne savent pas nécessairement compter jusqu'à plus de 5. C'est-à-dire que...
Ça fait.
Et là, ce qui est important, c'est de comprendre que le vivant n'a pas besoin de compter jusqu'à 30, 100, 100 000, mais il a juste besoin, c'est une question que je pose, hein, plutôt de savoir ce qui est moins, ce qui est plus.
Exactement.
Et des notions qui sont au final beaucoup plus simples pour construire des choses. Là, je viens d'enregistrer une émission à France Culture sur les constructions animales. Et tu vois, les questions auxquelles on essaie de répondre dans cette émission, c'est comment des termites, par exemple, sont capables de construire des cathédrales climatisées sans même avoir une idée de l'ensemble, du chantier. Il n'y a pas de plan, il n'y a pas d'architecte en chef. Chacun fait son petit boulot dans son petit côté. Il y a des notions de stigmergie, c'est-à-dire d'être stimulé par son propre travail. C'est un mot barbare. Bref, pardonne-moi. Mais quelque part, peut-être que les abeilles aussi, c'est aussi des insectes sociaux. Tu as prononcé le mot tout à l'heure. Bref, pardon. Mais effectivement, enfin, elles n'ont pas besoin de compter jusqu'à plus que 5 ou 100.
Non, elles ont évidemment la notion de qu'est-ce qui est moins et qu'est-ce qui est plus. Et effectivement, ce qui a été très, très intéressant par rapport à ce moins et ce plus, je te pose par exemple une question, Marc. Quand je te dis 1, 3, 5, 10, comment te représentes-tu mentalement cette succession de nombres ?
Moi, je vois ces chiffres et ces nombres s'afficher dans ma tête.
Et avec une logique spatiale particulière ?
Non.
Par exemple, est-ce que tu vois 1, 2, 3, 4, 5 ? Par exemple, 1 ici, 1 à gauche, 2 au milieu, 3 et 5 plutôt à droite ?
Alors, je les vois comme on écrit, c'est-à-dire dans ma tête, je les vois de gauche à droite.
Exact, c'est ce qu'on appelle la ligne mentale numérique. C'est-à-dire le fait qu'on a justement cette capacité à se représenter les nombres mentalement dans l'espace, avec les quantités plus petites à gauche et les plus grandes à droite. Et certaines disaient que c'est culturel, parce que c'est comme ça qu'on nous apprend à écrire, mais cette idée a été rejetée par la suite parce qu'on a montré que, par exemple, des bébés nouveau-nés ont le même type de réflexe. Tu me diras, mais les bébés nouveau-nés ne comptent. Oui, mais ils savent plus et moins. Et comment on fait ça ? Parce qu'un bébé nouveau-né, tu l'habitues à regarder dans un écran, il est couché là, une quantité particulière, par exemple 8 objets, et il ne compte pas 8, mais il sait qu'il y a une quantité d'objets, et puis tu présentes à gauche et à droite 3 et 3. Et ce que tu vas voir, c'est que le bébé regarde 3 à gauche, pas 3 à droite. Si par contre tu présentes 16 objets, et encore une fois, le bébé ne compte pas 16, mais s'il sait simplement qu'il y a plus qu'objets que les 8 auxquels il était habitué, il va regarder 16 à droite. Juste pour te dire que ça, c'était une expérience qu'on a faite récemment sur les abeilles, et on a montré que les abeilles qui comptent se représentent les nombres comme toi, avec les moindres quantités plutôt à gauche et les quantités plus importantes à droite.
Moi, je suis ravi que tu me compares à une abeille, mais tu te dis comme moi, mais c'est comme toi aussi.
Absolument, comme nous tous.
Bon, alors voilà comment les abeilles apprennent, et je renvoie celles et ceux qui nous écoutent au podcast de Baleine sous Gravillon, qui sont complémentaires, et Aurore nous détaille tout ça. Alors là, on vient de parler de compter. Moi, j'aimerais que tu me parles un peu de cette notion d'apprendre.
Oui, donc ça, c'est effectivement le grand domaine des travaux que j'ai fait. Évidemment, les abeilles apprennent et apprennent très, très bien des associations qui vont quelque part anticiper la récompense alimentaire qu'elles cherchent. Vous savez, l'abeille butineuse est programmée pour travailler de façon très efficace dans la nature. Il faut qu'elle aille chercher de la nourriture, pas pour elle, mais pour la colonie. Il ne faut pas qu'elle perde du temps, il faut qu'elle soit très efficace. Et dans ce contexte-là, elle apprend à associer avec cette récompense de nectar ou de pollen, plein de stimuli présents sur les fleurs. Des odeurs, des couleurs, des formes, donc des textures, même sur les pétales, etc. La position dans l'espace, et tout ça s'apprend de façon très efficace. Donc, effectivement, il y avait une idée quand j'avais commencé, c'est que ces apprentissages qu'on pouvait étudier dans le laboratoire étaient présents, mais comme dans plein d'espèces, puisque pratiquement tous les animaux vivants, y compris les plus simples, sont capables de ces apprentissages qu'on appelle associatif, c'est-à-dire le fait d'associer une simple information avec une conséquence, une récompense. Par exemple, bleu veut dire solution sucrée, jaune au contraire, il n'y aura rien. Donc ces simples liens, bon, bah, on savait, on les étudiait. Et peut-être le changement que j'ai essayé d'introduire, et ça a marché je trouve, c'est à un moment donné, quand j'étais très jeune, je me suis dit « mais ça ne peut pas être le tout de l'histoire ». Donc ces animaux sont tellement incroyables qu'on ne peut pas les limiter à ces apprentissages extrêmement élémentaires qu'on trouve partout? Est-ce qu'ils peuvent faire autre chose? Et c'est là où j'ai commencé tout un domaine de recherche sur des apprentissages appelés de haut niveau. Pourquoi de haut niveau? Parce que typiquement, c'est des apprentissages bien plus élaborés que des simples liens d'association et qui étaient considérés comme des prérogatives des primates, voire de certains animaux comme des dauphins, etc. Donc des êtres extrêmement cognitifs, extrêmement élaborés, évidemment l'homme. Et même que pour l'homme, il y a tout un pan de recherche en psychologie du développement qui pose la question à partir de quel âge un enfant est capable de ceci ou de cela. Et donc c'est là où on a fait une sorte de renversement hérétique pour dire on va poser ces questions à l'abeille. Est-ce qu'elle est capable de ce type d'apprentissage qu'on considérait la prérogative des primates et de l'homme? Par exemple, la transitivité A plus grand que B, B plus grand que C, donc déduction logique A plus grand que C. Est-ce que l'abeille serait capable de ça? Apprentissage de concept. Est-ce que l'abeille donc peut apprendre un concept particulier qui va au-delà des éléments qui sont à la base de ce concept? Je te donne un exemple. Par exemple, apprendre à choisir en fonction de quelque chose qu'on montre indépendamment de ce qu'on te montre. C'est-à-dire que je te montre quelque chose, ok, tu le vois. Ensuite, je te l'enlève et je te pose un choix entre ce que je viens de te montrer et quelque chose de nouveau. Évidemment, il faut que tu comprennes que la règle qui mène au choix correct, c'est choisis ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on te montre. Ce que je vais te montrer va changer tout le temps, mais il faut que tu comprennes, ah, peu importe l'objet, la règle est choisis ce qu'on te montre indépendamment de ce qu'on te montre. C'est un apprentissage conceptuel. Donc c'est ce genre de problème qu'on a commencé à aborder avec les abeilles, et dans les tout premiers travaux, on a montré effectivement, il y avait cette capacité, ce qui a été bouleversant pour moi, parce que je me suis dit, eh bien, donc on a perdu des années et des années en étudiant exclusivement les apprentissages simples, qui sont évidemment essentiels, il faut continuer à les étudier, mais il y avait bien un autre monde à côté et qu'on a découvert à partir de, je dirais, 2000, on va dire comme ça, 99, 2000, et ça a ouvert tout un domaine de recherche qui nous a emmené, par exemple, vers cette capacité de compter dont tu parlais tout à l'heure.
Martine, moi je me souviens dans les émissions que j'ai faites, notamment pour le bruit de la ruche, avec notre ami commun Henri Clément, le président de l'UNAF, l'Union Nationale des Apiculteurs Français, qui est derrière et qui soutient ce podcast évidemment. Avec Henri, on avait vu que les abeilles, de leur naissance à leur mort, elles passent par différents rôles au sein de la colonie. Elles commencent, en gros, je le fais vite, mais je crois qu'on avait dénombré une douzaine de tâches différentes qu'elles ne font pas nécessairement toutes, mais au début, en gros, elles nettoient. Ensuite, elles deviennent un peu concierges. Il y en a qui répartissent le nectar dans les alvéoles et qui en font du miel. Il y a encore d'autres rôles, etc. Et on avait vu que seules certaines abeilles accèdent au stade d'exploratrice. Il y a les butineuses, hein, donc ça c'est ce qu'elles font dans la dernière période de leur vie, et on voit que c'est très intelligent cette stratégie, puisque là où il y a le plus grande chance de mourir pour une abeille, c'est quand elle sort de la ruche. Elle a beaucoup de chances d'être prédatée, donc il est bon qu'elle fasse ça en fin de chaîne, mais aussi peut-être parce qu'elle a les capacités cognitives les mieux développées, je ne sais pas, tu nous le diras, mais ce qui m'avait frappé, c'est que au-delà des butineuses, il y a encore les exploratrices qui vont repérer les champs de fleurs et qui viennent le partager à travers ces fameuses danses qu'a étudié Carl von Frisch et vos équipes, j'imagine. J'aimerais que tu me dises un mot sur ces exploratrices qui sont quelque part les héroïnes, peut-être encore plus que d'autres, des colonies d'abeilles.
On sait relativement peu sur ces exploratrices. Il est difficile d'isoler expérimentalement des exploratrices pour les étudier. Tom Seeley avait fait quelque chose là-dessus, mais c'est resté un peu là parce qu'il n'a pas pu aller plus loin. Donc effectivement, Marc, je pense que c'est un sujet qui mérite d'être abordé, pour lequel on devrait trouver des approches expérimentales plus poussées. Comme tu le sais peut-être aussi, il y a des butineuses de nectar et de pollen. Et on sait que ces abeilles se distinguent par des backgrounds génétiques différents, c'est-à-dire des gènes qui déterminent qu'elles aillent plutôt dans un sens et dans l'autre. On pourrait peut-être imaginer que, aussi, de même, cette déterminaison de l'exploratrice passe par des aspects génétiques à savoir.
Dans une colonie d'abeilles, Apis mellifera, les ouvrières sont toutes des sœurs, de la même mère qui est la reine. Mmh. En revanche, elles ont des pères différents.
Exactement.
Car, c'est toi qui vas nous le rappeler.
En fait, c'est ce qu'on appelle des patrilignes, c'est-à-dire des lignées paternelle différente. Parce que la reine est fécondée par plusieurs mâles lors du vol nuptial, ce qui fait que dans l'espermathèque de la reine, il y a du sémen de différents mâles qui est stocké là-dedans. Ce qui fait que donc on peut avoir des ouvrières qui, comme tu dis, viennent de la même mère mais ont des pères différents. Et c'est pour ça, justement, qu'il va avoir des ouvrières qui, tout en étant sœurs, ont différents backgrounds génétiques. Et ce qui explique parfois qu'une abeille, même si toutes les abeilles se ressemblent, en fait non, il y a des, entre guillemets, des personnalités différentes. Okay, il y a des abeilles qui auront plus tendance à faire ceci, plus tendance à faire cela, justement parce que leur fond génétique est différent. Et donc il y aura des butineuses de pollen, des butineuses de nectar, des abeilles qui réagissent plus facilement à un tel stimulus, d'autres qui sont moins sensibles à ce stimulus. Donc il y a là tout un monde de possibilités. Et donc vous regardez une colonie, vous dites « Ah oui, ils sont toutes pareilles ». Pas du tout. Là aussi, il y a des sensibilités différentes au monde qui les entoure.
Je pense que c'est vraiment un champ de la neurobiologie qui est fascinant. Là encore, ce n'est pas pour à chaque fois faire de la retape, mais j'en ai parlé dans, par exemple dans mes émissions sur les requins, mm-hmm. où on a vu que les requins de la même espèce, du même âge, de tout ce que tu veux, du même sexe, etc., peuvent avoir des caractères qui sont très différents.
Exactement.
Et à l'heure des accidents, de ces morsures de requins, etc., il y en a très peu, hein, je le rappelle au passage, mais bref, les animaux... Et pourquoi pas même les plantes, ont des caractères, des personnalités différentes qui viennent de leur génome, mais peut-être aussi d'autres choses.
Mais exactement. Et tu sais, une des thèses récentes qu'on a faites là dernièrement avec une jeune fille allemande brillante, Valérie Finke, donc était sur la variabilité interindividuelle des abeilles lors des tâches d'apprentissage. Parce qu'on se dit, elles apprennent, ok, mais est-ce que c'est comme chez nous ?
Est-ce qu'il y a des bonnes élèves ? Est-ce qu'il y a des mauvaises élèves ?
Exactement. Et on a vu effectivement que la réponse est oui, mais c'est plus sophistiqué que ça et plus intéressant pour le succès d'une colonie. En fait, ce qu'il y a, ce qu'on a montré, c'est qu'il y a des bonnes élèves pour des tâches, on va dire comme ça, visuelles, par exemple, et moins bonnes pour les olfactives, alors que tu auras d'autres qui sont bien meilleures pour les olfactives que pour les visuels. Tu auras des bonnes élèves pour résoudre des tâches conceptuelles, comme celles dont on parlait tout à l'heure, très élaborées, et d'autres qui sont particulièrement bonnes pour les tâches plus simples. Donc, ce qui fait que dans tout ce monde de la colonie, tout le monde apprend. Tout le monde est très bon, mais t'en as qui sont particulièrement bonnes pour ce type de problème, les autres pour un autre type de problème. Et c'est super parce qu'avec tout ce spectre de possibilités, eh ben tu peux, quelque part, être très efficace pour appréhender l'environnement qui t'entoure.
Martine, la suite logique dans notre programme d'aujourd'hui, c'est de parler du fait de savoir si les abeilles ont une conscience ou pas.
Ah oui, donc ça c'est une très grande question et c'est des sujets très actuels sur lesquels on travaille à l'heure actuelle. On a même donc une thèse en cours, une jeune fille brillante aussi, donc Catherine Macri, qui est en train d'aborder justement ce problème dans sa thèse doctorale. Tout ça, bon, non seulement est d'actualité parce que plus on comprend ces animaux, plus on se penche vers eux, plus on découvre ce dont ils sont capables, plus la question vient. Parce que tu vois ce dont elles sont capables, tu te dis, mais est-ce qu'il y aurait la conscience de soi chez ces animaux ?
Martine, ne perds pas ton fil, mais rappelle-nous, ça veut dire quoi au final avoir une conscience ?
Donc ça veut dire plusieurs choses parce qu'encore une fois, la conscience se décline sur différents types de niveaux de conscience. Mais ça peut dire déjà avoir des expériences subjectives du monde qui nous entoure, par exemple, et des sensations sur ce monde. Avoir la peur, avoir la joie, avoir la douleur, c'est déjà quelque chose qui est lié à la conscience. Est-ce qu'un insecte, est-ce que les abeilles ressentent la peur, la joie, la douleur ?
Ce que tu es en train de dire, c'est que est-ce que les animaux qui nous entourent sont des robots, sont des machines ? C'est comme ça qu'on justifie le fait de jeter des homards dans l'eau bouillante,
voilà,
de faire n'importe quoi avec les êtres vivants en se disant « mais de toute façon, ils ne sentent rien ».
Exactement. Donc moi, évidemment, je suis absolument contre l'idée qu'ils sont des robots et des machines, tu l'as bien compris par tout ce que je fais. De plus en plus, il y a ces questionnements sur la conscience chez les animaux. J'avais participé il y a 3 ou 4 ans à un grand mouvement scientifique qui avait été mis en place par l'INRA, d'ailleurs.
L'INRA.
Oui, l'INRAE, pardon, qui voulait donc réunir un groupe de scientifiques français autour du problème de la conscience chez l'animal, parce que ça les interpellait par rapport à donc tout ce qui est les animaux de ferme, etc., les animaux pour la consommation humaine, etc., comment les traiter, quelle notion d'élevage va-t-on donc avoir si on assume qu'il y a une conscience chez ces animaux. Donc c'est une notion qui vient de plus en plus. L'année dernière, j'ai eu une expérience absolument hallucinante parce que j'avais reçu une invitation Quand j'ai vu la lettre, je l'ai jetée à la poubelle parce que je croyais que c'était du fake, quoi. Donc, c'était pas du tout vrai. Je reçois une relance 2 semaines après. Je dis, mais c'est vrai. Et en fait, c'est une invitation du Dalai Lama pour aller en Inde, là, à Dharamsala, où il habite. Et il y a une fondation du Dalai Lama qui organise tout ça. Et c'était pourquoi ? Eh bien, en fait, il voulait réunir là-bas une quinzaine de scientifiques, philosophes et psychologues du monde entier pour débattre si les animaux ont une conscience. Pour le Dalai Lama, c'était important par rapport à son positionnement envers les animaux et la compassion qu'il préconise envers l'animal dans sa notion. Lui, en fait, il disait clairement dans sa lettre, on s'en fiche des aspects religieux, c'est pas ça qu'on veut que vous débattiez, vous êtes libre de penser ce que vous voulez en termes religieux. Ce qu'on veut, c'est des éléments scientifiques par rapport à la notion de conscience chez l'animal. Et on était là plusieurs, donc des gens que je connaissais de livres, etc. J'étais très ravi d'avoir été inclus là-dedans. Et évidemment, tu vois jusqu'à quel point c'est une notion qui émerge de plus en plus. Et effectivement, si tu me poses la question, moi je pense effectivement qu'il y a certains niveaux de conscience chez ces abeilles-là, et ça va, si effectivement on démontre ceci, ça doit changer la donne quelque part, parce que ça ramène à des questions, ok, donc est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on est en train de faire par rapport aux abeilles et l'environnement ? Est-ce que si ces animaux ont une conscience différente, mais quand même présente de la nôtre, est-ce que balancer des pesticides partout, est-ce que faire ce qu'on fait à l'environnement est justifiable ? Tu vois, donc quand tu oublies cette notion que autrui n'est pas un robot, mais un être doué de conscience et vivant, est-ce que tu es autorisé à faire ce que tu es en train de faire ? C'est ça la grande question.
C'est vertigineux. Oui. Parce que tu vois, on a fait subir des choses à des races qu'on a, des races humaines, expression qui n'a évidemment aucun sens, au prétexte qu'elles étaient moins développées ou je ne sais quoi que nous. Et là, finalement, ce que j'appelle nos frères et sœurs du vivant, et toi, tu fais partie de ceux qui ne vont pas rire quand je vais dire frères,
absolument pas,
frères,
oui,
et
c'est
sœurs
clair.
Du vivant, savoir ce qu'on a le droit ou pas de faire avec eux. Enfin, c'est sans doute très naïf ce que je dis, mais j'y crois vraiment. Je pense vraiment que dans quelques siècles, pas quelques millénaires, on se dira vraiment, mais comment on a pu traiter le reste du vivant comme on le fait en ce moment au 21e siècle où on envoie des hommes sur la Lune, dans les abysses, où on invente ci ou ça. Enfin, mon but, c'est pas de flinguer et de taper sur l'humanité, mais c'est vrai que, comme beaucoup de gens, je suis éberlué de voir comment on traite le vivant. Comment, ne serait-ce qu'en France, il y a plus de 3 millions d'animaux qui sont abattus par jour dans des conditions. Il y a encore une vidéo de L214 qui vient de sortir. Tu n'as pas manqué de l'observer. 3 millions d'animaux par jour, les abattre, les exploiter de cette façon-là, dans quelque chose qui ressemble à du concentrationnaire. Toi qui viens d'Argentine, ces mots-là résonnent chez toi. Je vois que tu fais des grands yeux, forcément. Et 3 milliards par jour, ça fait 1 milliard d'animaux par an qui sont exploités, qui sont abattus. Voilà, enfin c'est, et les abeilles ne font pas exception.
Oui.
Pour parler d'un chiffre dont on parlait tout à l'heure toi et moi, dans un milieu sain, la mortalité des abeilles c'est 5% d'une ruche, d'une colonie. Aujourd'hui, on est à 30% de mortalité à cause des pesticides, et là, c'est très actuel ce qu'on dit, les agriculteurs militent pour pouvoir continuer à utiliser le Roundup, tous leurs pesticides, etc., au prétexte que il faut maintenir leur productivité.
Oui, effectivement, je pense qu'il faut qu'on puisse avoir une relation responsable envers l'environnement. On peut comprendre évidemment les besoins des agriculteurs, mais il faut aussi qu'on soit capable de concevoir des stratégies bio-friendly, on va dire, c'est-à-dire qui, quelque part, préservent l'intégrité de l'environnement tout en assurant leur travail. Et pour l'instant, donc, des solutions simplistes, on applique la même chimie parce que ça pose pas de problème, etc.
Excuse-moi, Martine, je suis obligé de t'interrompre. Le glyphosate vient d'être renouvelé pour 10 ans
ça,
par l'Union européenne. Qui pourtant est celle qui est la mieux disante, plus que les gouvernements nationaux, sur l'environnement. Et je pense qu'il va y avoir un gros retour en arrière avec les manifs d'agriculteurs partout en Europe, parce qu'ils réclament le droit de ne pas faire de jachère, de continuer à utiliser leur chers pesticides. Je pense qu'il y a d'autres sorts pour... parce que bien sûr, on n'a pas envie de taper sur les agriculteurs, c'est important ce qu'ils font, on les respecte.
Certainement.
Mais ce qui est incroyable, c'est que voilà, on a voulu faire d'eux les premiers défenseurs de l'environnement. C'est un rôle qui ne... C'est complexe, bien sûr, c'est pas noir ou blanc, les agriculteurs.
Tu vois, c'est intéressant parce que dans le monde rural, donc, que j'ai bien côtoyé, parce que je vivais dans la campagne à Toulouse, et j'avais beaucoup d'amis dans ce milieu, il y a d'un côté les agriculteurs et les apiculteurs. Ils sont tous les deux dans le monde rural, mais leur positionnement par rapport à l'environnement est différent. Donc, il y a des agriculteurs qui sont effectivement très, très conscients et très défendeurs de l'environnement. Pas tous, comme tu le dis. Par contre, les apiculteurs donc, ont une vision de préservation, de respect de l'environnement qui est tout à fait remarquable et que je salue fortement. C'est pour ça qu'on s'entend très bien, d'ailleurs.
toujours sur le métier remettre son ouvrage. Les apiculteurs ne sont pas 100% exonérables de critiques. Je pense à la Buckfast, je pense au fait que les apiculteurs ont créé des variétés d'abeilles qui sont beaucoup plus productives. Enfin, c'est-à-dire que tu vois, c'est une différence de degré et non pas de nature finalement. Bien finalement, sûr qu'on a envie de respecter nos amis de l'UNAF, tous les apiculteurs, il y en a 70 000 en France, qu'on salue tous, c'est tous nos amis, moi j'adore le miel, j'adore l'apiculture, mais il faut quand même dire que ce qu'ils ont parfois fait, tu le sais très bien, d'introduire des abeilles, tu sais, en Asie, le varroa, c'est qui l'a introduit?
Ah oui, oui.
C'est pas des terroristes, c'est les apiculteurs qui ont introduit le varroa.
Oui, si tu veux, à l'heure actuelle, les abeilles sont en train de subir plein de conséquences terribles de l'activité humaine. Elle est venue, parfois pas forcément des apiculteurs, par exemple le frelon asiatique est arrivé par des importations, donc quoi qu'il en soit, je crois qu'aujourd'hui, si tu veux, la tâche n'est pas tant d'identifier qui a fait ça, mais de trouver des solutions à ce qu'on est en train de voir à l'heure actuelle. Ça, c'est la grande tâche. Donc, on a cette réalité. On a la mortalité, la disparition de la biodiversité, les pesticides qui inondent tout. Donc, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit tous d'accord pour avoir donc, des attitudes responsables et surtout la recherche de solutions qui n'est pas facile, tu vois. Parce que, donc, on veut dire, oui, on va éliminer les frelons asiatiques, mais ils sont déjà très implantés. Comment on fait? Il faut qu'on réfléchisse pour trouver des solutions.
Oui. Moi, j'entends dire, mais c'est toi qui vas nous le confirmer ou nous l'infirmer, qui commence à trouver sa place, qu'il est régulé par d'autres choses, le frelon asiatique, qui n'est pas nécessairement aussi horrible ou plus horrible.
Pas convaincu.
D'accord, bah vas-y.
Je le vois monter de plus en plus. Si tu veux, à Toulouse, il était hyper établi et c'était l'horreur, c'est le sud. Ils venaient du sud, justement, ils sont arrivés dans le sud de l'Europe,
etc. Il est quasiment partout aujourd'hui, le frelon
asiatique. Oui, et quand je suis arrivé à Paris, donc c'était vraiment un choc terrible parce que je me suis dit, bon, ils vont y être, mais pas à tel point comme à Toulouse, où on ne pouvait même pas travailler au mois de septembre parce que c'est la période où ils sont très, très abondants. Il a suffi qu'on mette les ruches, et regarde bien ce que je te dis. Les ruches sont installées dans une terrasse d'un bâtiment de 7 étages dans le campus de Sorbonne Université. Terrasse qui a été aménagée par les soins de l'université d'une façon impeccable et géniale pour avoir là des cabanons climatisés, etc., pour pouvoir faire des expériences. Donc, merci Sorbonne Université pour ça. Mais il a suffi qu'on arrive avec les ruches, qu'on monte l'ascenseur, qu'on pose les ruches sur la terrasse 7e étage du bâtiment de Jussieu à Paris pour voir arriver comme ça, art de magie, 5 minutes après, les frelons asiatiques qui ont attaqué bon, les ruches. C'est hallucinant parce que quand même, une terrasse de bâtiment à Paris, un 7e étage, comment ont-ils pu repérer ces abeilles-là si rapidement? Donc, et arriver là, donc dans une situation absolument artificielle pour attaquer ces colonies, tu vois. Donc, moi, je me pose des questions. Je suis très préoccupé par l'impact de ces frelons. Et surtout, je te dis plus.
Ça fait 20 ans qu'ils sont là, quand même.
Oui, mais justement, et voilà ce que je vais te dire. Il y a eu des initiatives au niveau de l'Europe pour créer des réseaux européens pour aborder, à partir de différents laboratoires européens, le problème du frelon en travaillant ensemble. Malheureusement, ça n'a pas été retenu. Donc, tu vois, c'est dommage quand même. Donc, y a des grands sujets et on considère que ce n'est pas prioritaire.
Tant qu'on est à parler des menaces, bon là, on parle des menaces qui viennent d'autres êtres vivants, on va dire. Peut-être un mot sur le varroa. Alors, je rappelais au passage que comment le varroa est arrivé en France, c'est parce que, tu vois, la Buckfast, c'est cet hybride beaucoup plus productif. Je voulais quand même achever de le dire, c'est que nous, notre abeille native en France, qui existe depuis des millions d'années en France, qui est adaptée à nos climats, qui est beaucoup moins productive que les abeilles qu'utilisent la plupart des apiculteurs actuellement. En revanche, la nôtre, l'abeille noire, qui est menacée par l'introgression génétique, c'est un gros mot qui veut juste dire que c'est très difficile aujourd'hui d'avoir des abeilles noires, entre guillemets, je ne sais pas comment le dire, natives avec un génome intact, parce qu'il y a beaucoup d'introgression.
Oui, donc effectivement, le varroa, c'est un grand problème, mais il y a plein d'autres. Donc, ces pauvres abeilles sont en train de subir de partout, on va dire comme ça.
Ce que je veux dire, c'est qu'il y a 6 espèces d'Apis, si je ne dis pas de bêtises.
Oui, il y a beaucoup d'espèces asiatiques.
Et la nôtre, c'est Apis mellifera. Donc,
tout à fait.
Il y a toutes ces sous-espèces là que je disais. Donc, l'abeille noire, c'est Apis mellifera. Et puis les autres, c'est Apis mellifera.
Ligustica, l'italienne.
L'italienne, qui est la fameuse abeille jaune qui a conquis le monde. On raconte ça dans d'autres podcasts. Mais par exemple, une autre espèce d'Apis, c'est Apis serrana. Donc, c'est la cousine asiatique.
Oui.
Elle a appris à vivre avec le varroa. C'est
voilà
ce que je voulais dire dans cette émission.
Tout à fait.
Elles savent s'épouiller.
Tout
mais les nôtres ne savent pas le faire.
Pareil pour le frelon. parce que les abeilles asiatiques ont quelque part vécu avec ce frelon asiatique et elles ont développé au cours de l'évolution un comportement exceptionnel que les abeilles européennes n'ont pas. Elles entourent le frelon à l'entrée de la ruche et elles le grillent. Tout simplement parce que par la contraction musculaire des muscles de leur thorax, elles sont capables d'augmenter la température de leur corps parce que ce qu'elles ont développé, c'est une résistance individuelle aux hautes températures que nos abeilles européennes n'ont pas. C'est-à-dire que notre abeille, tu la mets à 38-40 degrés, au vol, elle chute, elle supporte pas. Ces abeilles-là, oui. Et cette capacité physiologique a été acquise au cours de l'évolution et elle permet de faire ça. Donc, va savoir combien de générations et combien d'années sont nécessaires pour que nos abeilles européennes arrivent à se défendre. Le constat actuel est que, pour l'instant, elles ne peuvent pas le faire.
Et il y a tellement de pression que les apiculteurs sont obligés de remettre sans arrêt, de compenser ces 30% de pertes pour que les ruches restent à flot.
Je voulais
juste pointer une erreur qu'on a fait tous les deux. Ce qu'on n'arrête pas de dire depuis le début, la frelon asiatique, ce n'est pas le terme convenable. Maintenant, il s'appelle le frelon à pattes jaunes.
Ok.
Vespa velutina. Non, parce que de dire asiatique...
Je comprends ce que tu veux dire.
C'est pas moi qui le dis.
Non, mais je comprends. On peut dire Vespa velutina.
C'est juste pour préciser à celles et ceux qui nous écoutent que voilà, et on peut aussi faire attention.
Oui.
Et on dit plus frelon asiatique, on dit frelon à pattes jaunes. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est ce que les scientifiques ont décidé de faire.
S'il y a un responsable par rapport au frelon, c'est pas l'Asie... quelque part, mais c'est l'activité humaine qui l'a apporté ici, tu vois.
Ah oui, je trouve ça un peu facile aussi de toujours taper sur les Chinois.
Tout à fait.
Pour excuser nos propres abus. Bref, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur les menaces qui pèsent sur les abeilles?
Oui, en fait, je voulais ajouter deux choses. Premièrement, que c'est pas juste... On parle tout le temps de l'abeille domestique, ok? Tu as mentionné d'autres types d'abeilles, Apis cerana, etc. Il y a d'autres espèces d'abeilles, mais on reste quand même sur l'abeille exploitée par l'homme. Okay. Mais il y a bien d'autres abeilles autour de nous, donc il y a des abeilles solitaires, des abeilles sauvages, donc pour lesquelles donc il y a des mouvements qui ont maintenant commencé et qui sont importants. Tu sais, on crée les hôtels à abeilles et tant mieux si c'est comme ça partout.
Alors on me dit, je te fais tout de suite réagir là-dessus, je te reprends la balle au bon. Hugues Mouret d'Arthropologia, qui a une asso qui raconte tous ces pollinisateurs, etc. Ils m'ont dit, en ayant l'air très certain de ce qu'ils disaient, que en fait les hôtels à abeilles sauvages, c'est pas une bonne idée.
Ah bon ?
Parce que c'est un nid à maladies et que du coup, quand il y a des maladies qui surviennent et il y en a de plus en plus, l'hôtel fait qu'elle chope toute la maladie et que du coup.
Sincèrement, je connaissais pas cette position.
Le principe est sympa de mettre des petits hôtels à abeilles dans son jardin, tu fais ça avec tes enfants et tout, c'est chouette. Mais eux me disent qu'au final, c'est une mauvaise idée.
Ok, je ne connais pas d'études là-dessus, je vais regarder, mais c'est une position qu'on peut bien entendre, mais bon, après, personnellement, je voudrais voir vraiment des études qui montrent ceci, je vais regarder. Quoi qu'il en soit, l'idée, ce n'était pas tant de parler de cette stratégie, mais de dire qu'il y a plein d'autres abeilles sauvages autour de nous, et quelque part, donc, abeilles domestiques, abeilles sauvages, c'est le même problème, tu vois. Donc, quand on dit on tape sur l'environnement, on le détruit, on affecte toutes les abeilles, toutes les créatures vivantes. Donc ça, c'est important. Une chose que je voulais dire aussi, c'est que quelque part, on pourrait dire qu'on a été des gens qui font de la recherche fondamentale sur l'abeille. Donc qui ont fait de la recherche sur la cognition, l'apprentissage, le cerveau, les circuits de la mémoire, etc. C'est des choses qu'on a faites pendant des années. Et logiquement, on n'a pas fait de la recherche appliquée, on va dire comme ça, sur des problématiques, l'impact de telle substance sur le cerveau, historiquement, je veux dire. Or, dans ces dernières années, évidemment, on ne peut pas rester insensible à tout ce qui se passe. On a changé notre positionnement par rapport à ce point-là et on s'est dit, il faut qu'on soit capable d'apporter nous aussi à ce débat. Et donc, on a commencé à développer des recherches dans ce sens-là, sans renier de ce qu'on fait, qui est ce pan de recherche fondamentale sur la cognition. Mais on s'est dit, si on commence à poser des questions sur comment certaines choses, certains traitements qu'on applique à l'environnement affectent cette cognition, ben on aura apporté notre petit grain de sable. À l'heure actuelle, juste pour finir, je suis en train d'essayer de convaincre ma nouvelle institution Sorbonne Université de créer une chaire de professeur junior pour étudier l'impact de pesticides sur les cerveaux, le fonctionnement cérébral des êtres vivants, y compris évidemment celui des abeilles. Et j'espère que ça va marcher parce que ça sera une contribution importante pour aller dans ce sens et apporter surtout des éléments concrets au débat. Non pas rester sur l'émotionnel, parce que tout le monde, moi-même, j'ai des aspects d'émotion par rapport à tout ce qu'on vit, mais bon, le rôle du scientifique, c'est dire, voilà, c'est ça, ça c'est l'élément scientifique incontournable, la preuve que ceci fait ceci ou cela. Et à partir de là, on discute.
D'accord, Martine. On est en train de jeter nos dernières gouttes de miel dans le pot de miel de cette émission, chère Martine. Demain, c'est le concours des miels où j'ai la chance d'être jury chaque année. J'adore ça, goûter tous ces miels, voter pour les meilleurs, etc. Si tu pouvais dire quelque chose aux apiculteurs ou tout simplement aux gens qui s'intéressent à l'apiculture, qui ne sont pas nécessairement apiculteurs eux-mêmes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire là, début 2024 ?
Tu sais, moi, j'ai pas de leçon à faire aux apiculteurs parce que c'est à l'envers. J'apprends énormément d'eux. Les apiculteurs sont des observateurs merveilleux de la nature. Et parfois, je vais tout le temps dans des congrès, etc., d'apiculteurs. Et parfois, il y a toujours quelqu'un qui vient et me dit « Regardez cette vidéo que j'ai faite, c'est une observation. » Et je vois ça et je dis « Mais c'est hallucinant. Là, il y a des questions qui surgissent, etc. » Donc, je suis très respectueux de leur métier et j'apprends de ce qu'ils font. La seule chose que je leur dirais, c'est que, certes, je suis bien conscient que ce que je fais est humble, on va dire comme ça, parce que c'est pas la solution au problème, rien du tout, mais que ils peuvent compter sur moi. C'est-à-dire que à partir de l'apport de connaissances, je serai là et qu'il suffit de me solliciter pour que je vienne vers eux, parce que c'est essentiel qu'on soit les uns à côté des autres.
C'est vrai que cette relation que l'humain a avec l'abeille, elle est déjà si ancienne. Je crois que ça remonte à plusieurs millénaires avant Jésus-Christ, si je ne dis pas de bêtises. Les premiers dessins d'abeilles dans une grotte. Hein. Enfin, bon, bref, c'est une relation qui est très ancienne, qui est magnifique. Et c'est peut-être une des plus admirables, même si, malgré tout, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas demandé leur avis aux abeilles pour leur piquer leur miel. Parce que c'est ce qu'on fait quand même, l'apiculteur. Mmh. C'est génial ce qu'ils font, bien sûr. Mais c'est quand même piquer du miel aux abeilles. En les enfumant, en utilisant certains procédés, tu parlais de conscience tout à l'heure, mais au final, c'est une relation qui est quand même magnifique, où ce vivant n'est pas exploité, on les choie, les apiculteurs choient leurs abeilles.
C'est une relation historique, et ça m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié tout à l'heure, c'est qu'effectivement, mais tout simplement parce qu'on était plusieurs auteurs, on a sorti un livre là-dessus, aux éditions CNRS, sur la relation historique entre l'homme et l'abeille. Dans ce livre-là, nous, on a assuré un chapitre sur tous les aspects cognition, etc. Mais il y a des aspects d'anthropologie, d'archéologie, etc., qui reviennent sur cette relation historique exceptionnelle entre l'abeille et l'homme. Donc, d'autant plus, quelque part, de regarder cette relation avec respect, avec tout l'intérêt qu'elle a, tout à fait. Oui.
Martine, on arrive au terme de cette entrevista.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vos.
Y nos vemos pronto. Cuídate mucho.
Bueno, gracias. Vos también.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Merci de partager le lien du bruit de la ruche et de vous abonner si vous avez aimé. Aidez-nous à faire le buzz, c'est le cas de le dire, et à recommander ce podcast à votre entourage et à vos amis. Des étoiles et des avis sont les bienvenus si vous écoutez l'émission sur Apple Podcast, c'est-à-dire sur iPhone. Je remercie l'UNAF, l'Union Nationale de l'Apiculture Française, partenaire de cette émission. Merci enfin à Félix Labande, l'auteur de la musique du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du Bruit de la Ruche. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous, notamment des abeilles. Merci, à bientôt.